Radio Okapi.
Le journal Pascal Massirika.
Les titres de l'actualité, plénière demain mercredi à l'Assemblée nationale ici à Kinshasa. Au menu, la mise sur pied d'une commission paritaire majorité-opposition pour statuer sur la répartition des responsabilités à la chambre basse du Parlement congolais. Le train de vie est devenu intenable pour l'ensemble des Congolais et les habitants de la ville de Kinshasa en particulier. Reportage à suivre dans cette édition d'information. Notre invité, c'est le directeur d'études et planification à l'OVD, Office de voirie et drainage. Kaloumé Abedi parle des inondations dans les zones autour du lac Tanganyika et propose en même temps le dragage de la rivière Lukuga. Madame, messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'actualité politique. Une plénière est prévue demain mercredi à l'Assemblée nationale ici à Kinshasa. Au menu, la mise sur pied d'une commission paritaire majorité-opposition pour pouvoir statuer sur la répartition des responsabilités au bureau définitif de cette chambre, ce qui vient ainsi calmer certains députés nationaux qui avaient déjà initié une pétition contre le président du bureau provisoire accusé d'avoir bloqué l'installation du dit bureau. Michel Kifindangoy.
La nouvelle de la convocation d'une plénière demain mercredi satisfait quelques députés qui pensaient déjà à la destitution du président du bureau d'âge pour avoir bloqué pendant tous ces jours l'installation du bureau définitif. La secrétaire rapporteure du bureau provisoire encourage tous les députés à prendre part à cette plénière afin d'épuiser l'ordre du jour de cette session inaugurale. Percy Nzuzi Umba.
La plénière apportera sans doute réponse à toutes les questions qui sont restées pendantes. Premièrement, l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, la mise en place de la commission paritaire majorité-opposition chargée de statuer sur la répartition des responsabilités au sein du bureau définitif.
Pour la secrétaire rapporteure, c'est au cours de cette plénière que sera adopté le calendrier de l'élection des membres du bureau définitif.
Nous avons entamé le processus l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, qui est la dernière mission du bureau provisoire. On ne peut pas parler des élections sans calendrier. Nous aurons plénière ce mercredi du 7. Le calendrier sera connu incessamment.
Cette plénière permettra aussi au Parlement de valider les pouvoirs des députés ayant été déclarés élus ou réhabilités hier lundi par la Cour constitutionnelle.
Merci Michel Kifindangoy. La députée Liliane Komba a été élue hier après-midi pour diriger le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il sera accompagné des deux Benjamin. C'était en l'absence des anciens membres du bureau et des députés de l'opposition. Pour sa part, le président qui a été déchu séjourne ici à Kinshasa depuis hier. À Lubumbashi, la correspondance de Jean-Gandou Kabongo.
Convoquée par la responsable de l'administration de l'Assemblée provinciale, la plénière de ce jour qui n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'installation du nouveau bureau d'âge, n'a duré qu'une vingtaine de minutes. La responsable de l'administration étant empêchée, c'est le fonctionnaire le plus gradé de l'administration de l'Assemblée qui a présidé cette séance. D'après lui, après la déchéance du bureau d'âge, suite à une pétition initiée par les députés provinciaux, il était impérieux de faire avancer les choses, car l'élection du gouverneur et des sénateurs pointe à l'horizon. C'est ainsi que les députés les plus âgés, après celui qui venait d'être déchu étant absent aussi, c'est la députée Liliane Komba, la plus âgée de ceux qui étaient dans la salle, a été choisie pour diriger le bureau d'âge, accompagnée des deux Benjamin, considérant que les deux premières missions assignées au bureau d'âge, notamment la validation de mandat des députés et l'élaboration du règlement intérieur sont déjà réalisés, il ne reste que l'élection et l'installation du bureau définitif. C'est donc cette dernière mission qui fera l'objet de la prochaine plénière convoquée pour ce jeudi. A noter que les différentes voies menant au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale, étaient barricadées par les éléments de la police qui filtraient tout passage. Seuls les députés provinciaux, les journalistes et les autorités ont eu accès dans la salle de plénière. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans un autre registre, le coût de la vie est devenu intenable ce jour-ci pour l'ensemble des Congolais. Ici à Kinshasa, par exemple, nombreux ménages s'en sortent difficilement. Ils plaident pour une amélioration. Un reportage de Babel Mpongo Masimango.
La vie est devenue très difficile, on ne s'en sort pas. Ces phrases, on les entend à longueur de journée chez les commandes équinois. Ces femmes rencontrées au marché ne font pas exception.
Nous souffrons. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on a mangé le poulet. Le poulet nuit revient à 10 000 francs.
Mon mari a 300 000 francs de salaire. Le loyer est à 150 000 francs. Ajoutez les Minerval des enfants. Moi-même, je vends. Les marchandises ne s'écoulent pas. Je vois des femmes arriver avec 5 000 francs au marché. Elles ne savent par où commencer.
Dans certains ménages, il y a des jours où il n'y a rien à manger et quand un cas de maladie s'ajoute, cela complique un peu plus, dit cette mère de 6 enfants.
Des fois, quand je me réveille, je n'ai rien dans les mains. Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Mes enfants me disent, maman, pourquoi tu es en train de dire beaucoup de noms de Jésus comme ça? Je ne vais pas commencer tout à expliquer aux enfants. Si j'ai un riz, je mets ses mains d'huile. Quand ils mangent comme ça, quand même, j'ai un peu la paix. Ça arrive, les enfants. C'est les fièvres. Tu n'as pas l'argent.
Toutes plaident pour une amélioration des conditions sociales de la population.
Quand on commence à payer nos maris à temps pour qu'ils ne soient pas obligés de s'endetter, tout le salaire va dans le paiement des dettes. Cela n'aide même pas aux besoins des enfants. Les taux du dollar baissent, même si on a 300 000 francs. Cela aura de la valeur, même le loyer va baisser.
Notez que le manque d'électricité et d'eau potable dans plusieurs quartiers constitue un poids supplémentaire pour les ménages.
Et puis, il y a actuellement pénurie d'eau potable depuis le week-end dernier dans plusieurs quartiers de la ville de Matadi, dans le Congo central, surtout des quartiers qui jouxtent les collines. Le directeur de la régie des eaux attribue cette pénurie d'eau potable à une panne sur l'une des deux motopompes du captage d'eau. Théodore Kabeyangandou rassure que l'équipe de la maintenance travaille actuellement pour rétablir la situation aujourd'hui. Ces propos ont été recueillis par Nana Pleurich Mambou.
La volonté de la régie des eaux pour offrir de l'eau est toujours là. L'équipe a travaillé jusqu'à 22 heures. Finalement, quand on a trouvé qu'il manquait une pièce, un joint qui faisait que l'eau coule, nous nous sommes dit, le joint, il faut l'acheter le matin. Et on a acheté ça ce matin, on est en train de travailler. Donc la volonté est là parce que nous vivons de la vente de l'eau. Donc nous assurons la population de Matadi que nous sommes à pied d'œuvre pour résoudre le problème. Nous avions le samedi informé la population qu'on va avoir des perturbations quand nous avons connu la panne. L'usine fleuve, le capteur doit fonctionner avec deux groupes motopompes pour envoyer l'eau à l'usine. Et l'usine, pour maintenant arriver à donner la distribution que nous avons habituellement là-bas, il faut qu'elle fonctionne avec trois groupes motopompes haute pression, vu le relief de Matadi. Maintenant qu'on a un seul groupe là-bas, le seul groupe-là envoie de l'eau, ça ne permet pas à ce que le refoulement actionne trois groupes haute pression. C'est comme ça qu'on fonctionne parfois avec un groupe, parfois avec deux groupes. Alors, les gens qui sont dans la ville basse ici ne sentent pas tout cela. Même si vous arrivez même jusqu'au niveau de Kalanka, là, ils ne sentent pas. Ce sont plutôt ceux qui sont dans les collines, là. Ce sont ceux-là qui sont impactés parce qu'il faut une forte pression pour que l'eau arrive chez eux.
Dans l'actualité, il y a également ces affrontements survenus ce matin au Nord Kivu entre les FRDC et les rebelles du M23 autour de la cité de Sake dans le territoire de Masisi, situé à plus ou moins 25 km de la ville de Goma. Selon des sources concordantes, ces affrontements se sont intensifiés depuis 3 jours. En Ituri, pendant 7 ans, les FRDC ont renforcé depuis 3 jours leur présence à Kingezi Base, dans le territoire d'Arou, à la frontière avec le Soudan du Sud et l'Ouganda. La nouvelle est annoncée par le gouverneur Johnny Luboyankashama à la fin d'une mission dans la zone pour empêcher les infiltrations des hommes armés venus des pays voisins. La présence des FRDC est tout de suite saluée par des habitants de la zone. Explication de Martial Kizebiamungu.
Kingezi Base, un poste frontalier situé au nord de la République démocratique du Congo qui forme un triangle avec le Soudan du Sud et l'Ouganda. Dans cette région frontalière, on assiste non seulement à la fluidité des trafics frontaliers entre les trois pays, mais il se pose surtout les problèmes sécuritaires avec le Soudan du Sud. Selon des sources sécuritaires, des bandits armés s'infiltrent régulièrement dans plusieurs villages congolais frontaliers pour commettre des exactions contre la population. Il s'agit notamment des tueries, vols à main armée et occupation irrégulière de champs. Sur décision du gouverneur des provinces, des militaires de FRDC ont été renforcés le long de la frontière avec le Soudan du Sud pour empêcher toute infiltration. La société civile, qui avait longtemps décrié les exactions commises par des hommes armés incontrôlés venus de ces pays voisins, salue cette décision qui, selon elle, permettra à la population d'accéder de nouveau aux champs et d'évacuer librement à ces occupations. Angouva Ouadri, président de la société civile des acquis.
On ajoute un nombre pour continuer quand même à protéger de ces côtés là-bas.
Cette structure souhaite cependant que cette présence de l'armée soit permanente pour la protection de l'intégrité du pays. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Et puis, trois enfants d'une même famille ont été tués lundi matin lors de l'écroulement du mur de leur maison au quartier Kataki 1 dans la commune de Kalemi. Le président du Parlement, Debout Sans Tabou, condamne fermement les services de l'État qui ne font rien actuellement face aux constructions anarchiques dans la ville. Nathan Mugisho est au micro de Paul Mounanga.
Vers 4h du matin, avec une pluie qui a frappé, le mur d'une maison s'est écroulé et voilà que dans cette maison, il y avait 4 enfants et leur mère, mais une famille au total de 6 enfants. Parmi les 4 enfants qui étaient dedans, 3 sont décédés à la suite de cet accident, de l'écroulement du mur. Et puis leur maman et la grande fille se sont blessées. Je les ai suivis même à l'hôpital militaire de la cité où elles sont toutes deux internées. Et leur santé s'améliore bien. Cependant, nous sommes en train de condamner avec la toute dernière énergie le fait que les services d'urbanisme et d'autres services ne sont pas en train de contrôler les gens qui construisent. À Kalemi, on constate qu'il y a beaucoup de constructions anarchiques, des constructions qui ne respectent pas les normes. Et c'est sous les yeux impuissants de tous ces services étatiques qui devaient aider la population. Aujourd'hui, nous sommes en train de compter le nombre de morts seulement parce que les constructions anarchiques sont en train de s'écrouler et ça ne permet pas aux gens de bien vivre.
Après l'éboulement de terre qui a coûté la vie à une dizaine de personnes samedi dernier à Dibayaloubwe dans la province du Kulu, cette commune rurale peine actuellement à retrouver les disparus faute de moyens financiers et logistiques. Le bourgmestre appelle par conséquent à l'aide du gouvernement central. C'est ce que nous raconte à Bandunduville Irène Mbomaluzolo.
Dans un entretien lundi, le bourgmestre de la commune rurale de Dibayaloubwe située dans les territoires du Djofa en province du Kulu a évoqué des difficultés d'ordre tant logistique que financier en ce qui concerne les recherches des corps des personnes disparues après cet éboulement de terre. Armand Iteraniam a parlé entre autres des manques de matériel pouvant permettre aux plongeurs de rester sous l'eau pendant un moment. Face à cette difficulté, le bilan de cette catastrophe naturelle est resté stationnaire depuis samedi, le jour du drame, a déclaré cette autorité qui précise que seuls 11 corps ont été repêchés le même jour alors que plus de 50 personnes sont restés introuvables jusque-là. Préoccupé, Armand Iteramania sollicite l'intervention du gouvernement afin de permettre aux services de poursuivre les recherches. Rappelons qu'une embarcation avec des passagers à bord faisait ses manœuvres d'accostage sur la rivière Kasai à Dibayaloubwe, s'est engloutie sous l'eau à la suite d'un éboulement. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Le pape François nomme Mgr Mitia Leskovar comme nouveau nonce apostolique en République démocratique du Congo. Annonce faite ce mardi à Kinshasa par la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO dans un communiqué. Ce prélat remplace à ce poste Mgr Ettore Balestero, désigné auparavant observateur permanent du Vatican aux Nations Unies à New York. Le portrait du nouveau nonce apostolique en RDC avec vous. Alain Rongmouchinch.
Mgr Mitia Leskovar est né à Krange en Slovénie le 3 janvier 70 et a été ordonné prêtre le 29 juin 1995 pour l'archidiocèse de Ljubljana. Il est docteur en droit canonique. Il est rentré au service diplomatique du Saint-Siège en juillet 2001 et successivement a rendu service dans la nonciature apostolique en Bangladesh auprès de la section des affaires générales de la secrétairerie d'État dans les représentations diplomatiques pontificales en Allemagne et en Inde. Mgr Leskovar a été nommé nonce apostolique en Irak en mai 2020 et archevêque titulaire de Bénévent. Polyglotte, il parle français, italien, espagnol, allemand et croate.
Actualité internationale.
Au Togo, les élections législatives et régionales sont prévues dans le pays le 29 avril prochain. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé hier lundi après-midi l'envoi d'une mission exploratoire. Mais ce mardi après-midi, l'organisation sous-régionale ne parle plus que d'une mission d'information dans ce pays marqué actuellement par un contexte politique tendu suite à l'adoption au mois de mai dernier d'une nouvelle constitution du pays. Et puis Israël promet une riposte à l'attaque massive et sans précédent qui a été lancée par l'Iran malgré les appels de nombreux pays, y compris son allié américain, à éviter une escalade de violence dans une région déjà endeuillée par la guerre en cours dans la bande de Gaza. Le cabinet de sécurité doit poursuivre ce mardi son débat sur cette réponse israélienne.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur d'études et de planification à l'OVD, l'Office de voirie et drainage. Kaloumé Abedi parle des inondations dans les zones qui entourent le lac Tanganyika et propose en même temps le dragage de la rivière Lukuga. Il s'entretient ici à Kinshasa avec Michel Kifindangoy.
Ingénieur Kaloumé Abedi, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel Kifinda.
Vous êtes chargé d'études à l'Office des voiries et drainages Tanganyika. Quel état des lieux faites-vous des inondations déplorées dans la ville de Kalemie?
Monsieur Michel, vous savez que beaucoup de villes de pays des Grands Lacs sont victimes depuis très longtemps des montées d'eau du lac Tanganyika. Et la ville de Kalemie n'est pas épargnée. Étant donné que les infrastructures modernes de la ville de Kalemie ont été construites sur le littoral du lac Tanganyika, vu que la ville ne regorge pas autant des routes secondaires modernes, l'unique route principale moderne que la ville détient, que je cite le boulevard Lumumba, est aujourd'hui à 60% menacée par cette avancée du lac Tanganyika. Et une bonne partie de sa couche d'éroulement est endommagée. Aujourd'hui, pour arriver au bureau du gouvernorat provincial, de l'aéroport de Kainda via le boulevard Lumumba est devenu impossible. Il faut emprunter une route tertiaire qui n'a qu'une emprise de 4 mètres. À ce qui concerne les infrastructures écolières, aujourd'hui nous comptons 5 écoles détruites par cette montée d'eau du lac Tanganyika. Le beau quartier de la ville appelé communément quartier d'Ave est en train de partir, d'où nous enregistrons aujourd'hui plus de 1500 maisons englouties par cette avancée du lac.
Cette situation ne concerne pas seulement la ville de Kalemie, mais aussi les territoires de Moba, Uvira dans le sud Kivu, ainsi que les villes de Bujumbura au Burundi, Kigoma et plusieurs autres localités de la Tanzanie, ainsi que Mpulungu en Zambie. Dites-nous, qu'est-ce qui explique cette montée exagérée des eaux du lac Tanganyika?
Effectivement, monsieur Michel, cette situation concerne les 4 pays qui entoure le lac Tanganyika, que je cite, la République démocratique du Congo, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Ces villes qui entourent le lac Tanganyika sont en général construites sur le flanc de montagne, d'où 50% de ces constructions sont anarchiques. Et lorsqu'il pleut, nous assistons à un charriage gigantesque de sable vers les lacs. Avec ces changements climatiques que le monde est victime, notre continent n'est pas épargné. Depuis quelques années, nous enregistrons des grandes quantités d'eau versées dans le lac Tanganyika, via précisément ses alimentes. Vu que le lac Tanganyika n'a qu'un seul déversoir, qui est la rivière Lukuga, qui n'est pas aussi épargnée par cet ensablement. D'où, à son tour, elle ne sait pas bien évacuer l'eau du lac vers le fleuve Congo. Vous allez comprendre avec moi, partant de la théorie de vase communicant. Lorsque l'eau du lac n'est pas bien évacuée par son déversoir, elle cherche à se déverser à un point bas, qui est le continent, le ville qui l'entoure.
Y a-t-il une solution envisageable pour arriver à gérer ces eaux et épargner les infrastructures de ces différentes villes de la région?
La seule solution envisageable aujourd'hui est le dragage de la rivière Lukuga.
Que vous faut-il exactement pour procéder au dragage de la rivière Lukuga et épargner ainsi les villes et territoires qui entourent les lacs Tanganyika de ce catastrophe?
Le dragage de la rivière Lukuga n'est pas une mince affaire, tout en connaissant le prix d'une drague appropriée, en tenant compte de la longueur de la rivière Lukuga, qui est de 350 km, avec un bassin de 270 900 km². Ce n'est pas moindre. À ce qui concerne la prise en charge du projet, soit le montage financier, cela revient à l'autorité provinciale. Mais normalement, les dragages de la rivière Lukuga concernent tous les pays du Grand Lac.
Ingénieur Kaloumé Abedi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Michel Kifinda.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur d'études et planification à l'Office de voirie et drainage, OVD Tanganyika. Kaloumé Abedi a été interviewé par Michel Kifindangoï. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté infiniment. Merci à Judy Bilanda Kumar qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale dans les Irung Mouchinch.